Bonsoir. Nous sommes très heureux ce soir d'accueillir Martine de Godemar et je remercie vraiment Céline Spector et la Société de philosophie de Bordeaux d'avoir été vraiment partie prenante pour la venue de Martine de Godemar. Donc, Martine de Godemar est professeure de philosophie à l'Université de Paris-Ouest, Nanterre La Défense, membre de l'Institut universitaire de France. Elle a travaillé sur l'histoire de la philosophie moderne et contemporaine, la psychanalyse, le lien entre la question du sujet et la notion de forme, ce qui l'a menée à explorer les individus, les personnes et les personnages à l'intérieur d'une philosophie de la culture, et avec un regard sur le monde que nous voulons, pourrait-on dire, monde appréhendé largement à travers les pratiques culturelles que sont le cinéma, le théâtre ou encore l'opéra. Son travail sur l'âge classique a abouti en 2011 à un livre chez Holmes sur Locke et Leibniz, deux styles de rationalité, après bien d'autres ouvrages qui avaient été écrits sur Leibniz. Dans l'ouvrage que Martine de Godemar vient présenter ce soir, La voix des personnages, Locke et Leibniz continuent d'habiter sa pensée. Les personnages d'ailleurs qui l'intéressent ne sont pas tant les personnages conceptuels, généralement les seuls d'ailleurs que le philosophe avoue fréquenter, mais des personnages qui sont déjà réalisés, ces personnages conceptuels qui sont souvent des personnages déjà réalisés dans leur forme, reconnaissables et partageables. Elle fait en fait une hypothèse différente que je relis ici au début donc de son livre. J'ai fait l'hypothèse que des devenirs transforment des personnages informes ou à peine dessinés, pure potentialité, en personnages déterminés qui habitent la conversation sociale et inspirent les artistes capables d'en capter la voix et l'énergie. Bref, comment les personnages existent-ils? Comment acquièrent-ils une voix? Mozart nous donnant à entendre la voix de Don Giovanni, mais aussi Hegel, Lacan ou Judith Butler, celle d'Antigone. Donc, campons en quelque sorte avec ce livre la diversité des personnages. Et ça va de Frankenstein à la Joconde, à Moïse, à Einstein, à Tarzan, à Sherlock Holmes, à Cléopâtre et à d'autres. Ce sont donc des personnages partagés, à décrypter à travers leur genèse. C'est bien le propos du livre. Ils sont l'expression d'une pensée moins spéculative que sensible qui procède par figuration et précède le concept. Et je dirais que là se situe ce que l'on pourrait appeler l'esthétique de Martine de Godemar, un travail sans relâche sur la pensée sensible plutôt qu'une théorie de l'art. Alors, le propos du livre, c'est bien comment commencer avec ces personnages qui échappent toujours aux philosophes parce qu'ils sont en devenir, en genèse, ce sont aussi des passeurs. Le début, la première partie du livre est assez provocatrice parce qu'avec cette perspective, elle commence finalement par une ontologie du personnage qui compare l'individu vivant, les personnages comme êtres mentaux et textuels, la personne, avec la prééminence du sens juridique, la persona également. Ce que montre Martine de Godemar, c'est que la vie hante finalement tous ces modèles, et c'est pourquoi, de son point de vue, mieux vaut le lien lamnitien entre personne et personnage, qui est à même de nouer la réalité concrète et le statut juridique, les variations et la permanence. C'est donc tout un étayage sur la personne vivante, à la différence de la conscience lockienne, qui serait si réflexive, selon Martine de Godemar, qu'elle en oublie le corps, trop construite comme une expérience de pensée dans l'activité même qu'elle accomplit. Donc le personnage se déploie dans un préalable métaphysique, plus lamnitien que lockien, celui aussi du passage de la puissance à l'acte, et c'est alors que peut commencer dans le livre tout le mouvement de la, de l'analyse de la production du personnage. Et il y a ce moment très amusant où Martine de Gondemar fait la différence entre Bogart et Gregory Peck, selon l'idée que justement Bogart a su créer une individualité cinématographique, ce qui n'est pas le cas de Gregory Peck. Dans une deuxième partie, le livre examine alors l'efficacité des personnages à travers des usages qui mettent en avant leur activité. Le personnage est porteur d'une forme de vie, d'un cogito particulier, d'une affirmation singulière d'existence. On peut dire qu'après Locke et Leibniz, c'est l'ombre de Cavell qui surgit à travers le claim, cette demande de reconnaissance des personnages pour la forme de vie qu'il présente. Et je cite la page 210, le personnage, outil du passage au public, permet à une forme de vie d'être publiquement reconnue. Et là, il y a le claim de Socrate, de Rimbaud, de Médée ou d'Antigone, avec, en ce qui concerne Antigone, la référence justement au livre de Judith Butler, Antigone's Claim. Et puis, cette idée, finalement, que les personnages portent des questions universelles qui se posent dans des situations particulières, de telle sorte que ce à quoi aboutit le livre dans cette deuxième partie, c'est bien, finalement, la perspective de ce qu'on pourrait appeler un universel concret. Je terminerai par la troisième partie, qui est aussi la conclusion. Le moment où Martine de Gondemar réfléchit sur finalement des perspectives éthiques pour les personnages, à savoir quel usage peut-on faire des personnages pour accroître notre puissance d'agir, quelle conception du monde font-ils tenir alors que nous sommes, comme l'écrit Cavell, face au soupçon que le monde est sans fondement. Et en fait, on pourrait reprendre cette phrase de Cavell, page 409, « Comment vivre dans un monde sans fondement ?» On pourrait dire aussi « Comment vivre dans un monde instable ou précaire ?» Et je ne résiste pas à la tentation de lire vraiment la fin du livre, page 451, parce qu'elle fait écho à certaines de mes préoccupations aujourd'hui, donc ça m'a forcément un peu alerté. Mon propos ressortit à une éthique de la sollicitude et du moindre mal, non à celle de l'acte éthique héroïque. On peut bien l'adopter pour soi-même, mais il serait dangereux et abusif de généraliser pour tout autrui. Éthique donc, et non morale généralisable. Je crois que ça, c'est vraiment toute la méthode du livre. Donc, vraiment, Martine, merci d'être là ce soir et donc la parole est vraiment à vous pour votre voix.
Merci Fabienne, je ne sais pas ce qui me restera à dire puisqu'elle a vraiment fait une synthèse tout à fait remarquable du livre. Mais donc merci à Fabienne Vaugère et à Céline Spector de m'avoir donné l'occasion de présenter mon travail sur les personnages devant un public de philosophes ou de personnes sensibles à la philosophie, ce qui est très important pour moi puisque mon livre est fondé sur une conviction qui est cavellienne, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a de la philosophie présente dans le non philosophique ou dans dans les œuvres non professionnelles, hein, où la philosophie exerce son action de manière non professionnelle. Donc, c'est pourquoi j'étudie ces personnages qui sont pour moi les outils de la philosophie non professionnelle qui est en activité dans la cité. Alors, je souligne que malgré son titre qui peut induire en erreur, mon approche n'est pas littéraire ni esthétique, du moins le croyais-je avant d'avoir entendu Fabienne s'exprimer de manière généreuse, parce que je ne suis pas du tout philosophe de l'art et ma formation est plutôt logicienne et épistémologique en fait. Je suis, comme elle l'a dit, une spécialiste de Leibniz et disons que mon approche est principalement ontologique. Je me demande ce que sont les personnages, quel est leur mode d'existence, leur type d'activité et ce qui fait leur efficacité. C'est en effet à partir de leur action sur moi ou d'autres, à partir de l'expérience que j'avais de leur charme, de leur étrangeté, de leur puissance parfois horrifiante ou terrifiante, ou bien attractive, et si attractive qu'il faisait taire tout esprit critique, que je me suis interrogée et que j'ai travaillé. Je suis partie en fait d'une expérience commune, celle d'être affectée, fascinée ou horrifiée, ce qui paralyse la pensée, mais aussi l'interpelle et mobilise en nous le philosophe. Affectée par certaines figures, visibles ou audibles, certains personnages sont entendus avant d'être vus, comme le nom d'un personnage à chanter sur une partition. En tout cas, ils sont sensibles. Je n'ai pas encore l'expérience de personnage qui aurait été simplement senti par l'odorat, mais c'est vrai qu'il y a un film avec une odeur dit féminin. Alors ces personnages ou ces figures pouvaient être à peine dessinés, donc n'étaient pas encore des personnages, informes des silhouettes de passage, à la fois étranges et familières, mais difficiles à identifier, difficiles à nommer, difficiles à décrire, comme on les trouve dans les rêves, dans les rêveries, dans des rencontres rapides, fugitives, voire dans certains cauchemars éveillés que nous avons l'impression de vivre dans certains événements traumatisants. Dans les contes et légendes, on voit des fées, des sylphes, des revenants, des fantômes, des vampires, qui sont peut-être un début de prise de forme, précisément, de ces formes fugitives qu'on n'arrive pas du tout à saisir. C'est une, disons, une prise de forme à peine esquissée. Or, bien des figures cinématographiques me faisaient une impression analogue. Il était difficile de démêler ce que j'y mettais et ce qui venait d'eux. Et cela m'a poussée, je pense, je dis cela pour être un peu vague, mais parfois je me demande si ce n'est pas eux-mêmes qui poussent, un peu comme Maria Callas, à qui on demandait à la sortie d'une représentation si elle n'avait pas eu peur, et qui disait « moi j'ai peur, mais... » elle n'a pas peur, hein, par exemple, que ce soit Médée ou une autre, le personnage qu'elle chantait n'a pas peur. Donc je n'ai pas peur parce que je suis à ce moment-là le personnage. Donc cela m'a poussée à rapprocher les personnages évanouissants d'autres personnages et qui, eux, avaient pris une certaine forme dans la mesure où ils produisaient des effets affectifs assez analogues et que l'on pouvait, eux aussi, les saisir dans la conversation sociale. Ces figures me semblaient curieusement tissées d'intimité et d'une matérialité culturelle. C'est pourquoi je les ai considérées très vite, même avant d'avoir élaboré l'ensemble que vous pourriez trouver dans le livre, comme des intimes collectifs, selon une formule qu'on trouve aussi en ethnopsychiatrie. Dans d'autres cultures, les ethnopsychiatres ont été amenés à repérer aussi des formes intimes collectives. Et je pense que les personnages de notre culture sont aussi des intimes collectifs. Alors, et c'est vrai qu'il y a des personnages qui semblent très différents dans la mesure où leur forme est saisissable. Par exemple, les personnages historiques ou les hommes politiques présents, présent ou passé, sur la scène de l'histoire ou de la cité, ces figures nous réunissent ou nous divisent, comme Saint-Just, Robespierre ou Jeanne d'Arc, mais aussi De Gaulle ou Mitterrand, sans en parler des Fillon, Strauss-Kahn ou Sarkozy. Et ce sont des... Ils jouent des rôles respectifs, c'est-à-dire relatifs les uns aux autres, pour la collectivité. Donc je pense qu'on doit les prendre comme des organisateurs collectifs. Ce sont des figures publiques qui voisinent aussi pour nous avec des figures qui sont matérialisées sous nos yeux dans les musées, dans la peinture, sur les affiches dans les rues, et que, en quelque sorte, nous reconnaissons, en tout cas qui font impression sur nous, alors même que nous ne pouvons pas toujours les identifier, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde identifie Einstein tirant la langue dans la rue, hein, mais pourtant c'est une figure collective. Dans les peintures, nous avons bien sûr des madones, des saints, nous pouvons reconnaître Saint-Sébastien, mais à supposer que nous ne le reconnaissions pas, cette peinture fait effet sur nous. Ou la femme allaitant son bébé dans la tempête de Giorgione, veillée par un guerrier dont on ne sait pas quelle est la fonction, ou la femme à la perle, la Joconde. Ces innombrables figures sont peut-être plutôt du collectif que de l'intime. Et pourtant, me suis-je dit, il y a un véritable nouage entre l'aspect collectif de ces figures et la mobilisation de la subjectivité qu'elles opèrent. C'est pourquoi j'ai choisi pour couverture du livre une figure qui me semblait précisément être au carrefour du public, du politique et de l'intime, du drame oedipien ou incestueux, c'est-à-dire Salomé. Et je pense aussi que si on regarde ce tableau, on peut parfaitement ignorer l'histoire de Salomé, que ce tableau fait effet. Pourquoi fait-il effet ? Enfin, j'essaye d'en donner, bien sûr, quelques raisons parmi sans doute d'autres. Il me semble que c'est un très beau visage, extrêmement serein, pensif, qui entoure de son bras d'un geste tendre et tout à fait paradoxal, précisément, un objet d'horreur, un sept-tête coupé qui est sur un plateau, et pourtant d'un geste pratiquement protecteur. Et c'est vrai que ce tableau, pour ma part, me fait penser à la Médée de Delacroix, que l'on voit à la fois entourant ses enfants et menaçant en fait de les tuer, dans ce geste paradoxal qui réunit des contraires. Et il me semble que c'est en fait vraiment cela, Médée, c'est vraiment cela, Salomé, c'est tout cela à la fois. Alors, en me renseignant un peu sur ce tableau qui pour ma part, me fascinait aussi par son éclat, la reproduction ne donne pas, je pense, l'éclat du tableau, ce tableau du Titien, ce tableau déconcertant, en fait. J'ai lu un commentaire de Panofsky qui rapproche ce tableau de légendes médiévales, où Salomé est une personne médiatrice que nous pouvons en quelque sorte prier si nous sommes dans le désespoir amoureux, et elle intercédera pour nous auprès des saints. Donc cette figure médiatrice que nous pouvons prier, ça me semblait à la fois de l'étoffe du personnage, qui est toujours un médiateur, et en même temps, ça me montrait, et ça nous montre à tous, je pense, à quel point une figure peut être réinvestie et changer de signification selon les approches et selon les contextes. Et enfin, mais je ne développe pas ce point, il me semble que le tableau non seulement donne à voir, mais effectue cette sorte de pacification de la violence que nous attribuons en fait à une sorte de catharsis aristotélicienne, ou bien à ce que Freud appelle la sublimation. Mais comme ces opérations sont en fait tout à fait opaques, nous ne savons pas bien ce que c'est que la sublimation, nous ne savons pas bien ce que c'est que la catharsis, il me semble que ça nous donne à voir justement ce que c'est sur un cas particulier, c'est comment une histoire de violence et d'horreur peut être transformé en un tableau qui ne dissimule pourtant rien de cette tête coupée, hein, qui ne la cache pas, qui au contraire l'offre au regard, et qui en même temps est un tableau pacificateur. Bon, je passe maintenant à la suite, et donc à ce projet qu'a rappelé Fabienne tout à l'heure, qui est que j'ai pris la décision, le travail sur le personnage est le fruit de cette décision que j'ai prise de rapprocher les figures de l'intimité et les figures du nous, en considérant qu'elles étaient toutes des figures hybrides, où le poids du collectif était sans doute plus ou moins grand, mais était toujours présent. En sorte que il n'y avait pas de personnage purement privé, pas plus qu'il n'y a de langage privé. Donc l'entité personnage que j'ai à la fois explorée, élaborée et conceptualisée est le produit de cette décision. Et décision non seulement de rapprocher, mais au fond de mettre en série les figures énigmatiques, évanouissantes, incertaines, disparaissantes, celles des rêves, et des personnages identifiables dans des contextes déterminés qui sont solidaires de leur médium, textuel, pictural, cinématographique, opératique ou autre. Ce rapprochement de personnages hétéroclites suppose qu'ils sont faits de la même étoffe, et là, c'est évidemment l'hypothèse que je fais, c'est-à-dire que c'est l'étoffe des rêves, au sens où Shakespeare parle de l'étoffe des rêves, et qui est peut-être la trame de notre existence, et peut-être n'en y a-t-il pas d'autre, même si nous rêvons, c'est aussi une proposition cavellienne, nous rêvons toujours à un autre monde qui serait le vrai monde, nous rendant compte justement de ce caractère évanescent et passager de notre monde. Alors, pour rendre intelligible ce rapprochement, j'ai utilisé, comme l'a rappelé Fabienne, la version moderne du transconcept aristotélicien du passage de la puissance à l'acte, qui suppose qu'il y ait des devenirs à la fois dans les êtres vivants et dans les artefacts, et que ces devenirs sont contingents, puisqu'ils sont soumis aux aléas des circonstances et des rencontres aléatoires, mais en même temps, ils sont naturels, puisque le matériau est absolument déterminant dans ces devenirs. L'homme peut devenir grammairien s'il rencontre un maître capable de lui enseigner la grammaire, mais pas le chat. Le bois peut brûler, mais pas spontanément. Et il peut aussi se développer en chêne sans devenir du bois brûlé. Donc là, il y a des rencontres aléatoires, disons des circonstances qui font le devenir. Alors que la version moderne de cette catégorie ou transconcept donnée par Leibniz en fait une virtualité agissante, c'est-à-dire une force de développement qui est active alors même que elle peut évidemment rencontrer des obstacles qui freinent le développement ou même qui le stoppent, mais ce développement aura lieu un jour ou l'autre. Voilà. Donc il y a une sorte d'élément énergétique dans la virtualité agissante qui hérite certainement de la potentialité aristotélicienne, mais qui va beaucoup plus loin. On a une sorte d'investissement d'activité dans la virtualité. C'est-à-dire que les rencontres aléatoires peuvent bloquer, stimuler ou freiner le développement, mais elles ne créent pas le développement. Alors, utiliser ce transconcept, c'était considérer toutes les sortes de personnages comme existant à différents degrés d'actualisation, mais toujours comme des forces poussantes à la réalisation. Ce caractère hybride de l'entité, ainsi constituée de réalisation ou d'actualisation plus ou moins aboutie, correspond à la liste très hétéroclite et à mon avis délibérément hétéroclite de personnages cinématographiques cités par Stanley Cavell dans un livre très ancien mais qui est paru seulement en 1999 en France, mais il est paru aux États-Unis en 1671, The World Viewed, qui est traduit la projection du monde. Et dans ce passage, Cavell écrit, en reprenant d'ailleurs des indications de Panofsky, qu'à mesure que Hollywood se développe, les types originels, par exemple le shérif, la vamp, la jeune fille pure, se sont ramifiés en individualités aussi diverses et subtiles, allant aussi loin dans leur capacité à infléchir nos humeurs, à libérer nos fantasmes, que n'importe quel ensemble de personnages peuplant les grands théâtres de notre monde. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous lire, mais simplement vous donner quelques éléments de cette liste hétéroclite, hein, qui est délibérément hétéroclite, puisqu'elle fait voisiner des entités générales, des individus particuliers, des personnages singuliers et des acteurs. Alors, par exemple, il dit l'ennemi public, le prêtre, James Cagney, Pat O'Brien, l'espion sudiste, l'éclaireur de l'armée, Gary Cooper, Gable, le journaliste, le sergent, le shérif, le procureur, l'avocat marron, l'autre femme, la femme perdue, la poule, l'entraîneuse, etc. Donc Hollywood a été le théâtre sur lequel ils apparaissaient parce que les films de Hollywood constituaient un monde avec des visages récurrents qui me sont, dit Cavell, aussi familiers que les visages en fait, de mes voisins. Donc, ils sont en fait mon entourage. C'est cela, je crois, l'affirmation. Ils forment un monde. Ils sont des capacités à infléchir nos humeurs et à libérer nos fantasmes. Et ils sont en fait mon entourage. C'est au milieu d'eux que je vis. Alors, je traduis ces remarques par une conséquence importante que j'ai suggérée déjà tout à l'heure. Il n'y a pas de personnages séparés. Et il faut restituer les connexions à d'autres personnages, objets, et circonstances qui font un monde. Le caractère hétéroclite et hybride des personnages correspond aussi à l'impossibilité de démêler réalité et fiction dans un personnage, puisque même réalisé et historique, il va continuer son existence post-mortem, comme le ferait un personnage romanesque dans l'esprit des gens. Et donc c'est cette existence dans l'esprit qui est l'existence d'un personnage. En sorte qu'on pourrait aussi bien dire que les personnages historiques sont fictionnés, mais aussi que les personnages de fiction viennent vivre dans notre monde historique une existence ou plusieurs. Alors cela produit une véritable corrosion de l'opposition entre réalité et fiction. Et pour cela, on pourrait l'illustrer par deux passages. Je ne sais pas si j'ai le temps de les lire. Je vais simplement en parler par allusion. C'est un passage de Proust dans La recherche du temps perdu qui est commenté par Jean-Claude Pariente. Il voulait montrer que le nom propre est accompagné de représentations identifiantes ou non, qui ne définissent pas le porteur du nom propre et qui forment plutôt un personnage inconnu du porteur du nom. Donc qui vit en autrui. C'est donc la même idée. Et Jean-Claude Pariente écrit « Je mène en autrui une existence inconnue de moi qui continuera lorsque je serai mort. » Donc ce n'est pas seulement les personnages historiques. Hein, moi, lorsque je serai mort et que je ne serai plus en autrui qu'un personnage définitivement séparé de ma personne, ce corps vivant hein, qui sera mort. Donc c'est un texte de Proust qui appuie ma thèse sur une relative disjonction entre la personne support et les différents personnages qu'elle soutient, qu'elle le sache ou non. Pour chacun de nous, le personnage est une part inconnue de lui, à jamais mystérieuse, parce qu'elle fait partie des images et des attentes d'autrui à son égard. Et cette part inconnue de chacun vit une existence quasi autonome, produisant des effets sur autrui. Alors je suppose que c'est cette vie-là, cette vie en autrui, cette vie que chacun de nous ne peut maîtriser, cette représentation partagée, qui mène sa vie à elle, dans les esprits et les conversations, que l'on peut imputer précisément à un personnage qui, lui, n'a jamais eu d'existence historique, qui n'a jamais été une personne insignable, que ce soit les personnages des mythes, des contes et légendes, Blanche-Neige, Antigone, la mauvaise mère, la fille folle de miel, étudiée par Lévi-Strauss, et qui ressemblent pourtant à diverses personnes, par divers traits, parfois très disparates, que l'invention collective ou la fiction d'un auteur a permis de totaliser. C'est très net dans le personnage de Médée qui vraiment synthétise, c'est pourquoi d'ailleurs c'est une figure instable, des traits extrêmement disparates hein, et que l'on peut penser impossible à concilier dans une même personne. Et pourtant tout à fait reconnaissable. Hein, j'avais été amenée, je l'avais expliqué ici même il y a quelques années, dans un colloque à Bordeaux sur des questions de santé, donc dans une expérience thérapeutique que j'avais eue avec une jeune fille un peu limite, même très très limite, qu'on pouvait considérer soit comme délirante, soit comme hystérique, mais hystérique au sens de la folie hystérique, pas de la névrose hystérique, qui avait affaire, qui ne cessait de parler d'une mère impossible, sinon une mère cauchemardesque, sadique et cruelle. Pour arriver à comprendre ce dont elle parlait, je me suis dit, elle a une mère Médée. Et en fait, ça m'a amenée à la rapprocher d'autres personnes qui ont eu aussi affaire à cette mère terrible, destructrice, puisque sa mère, si on l'écoutait, disait que lui donner des ordonnances qui allaient l'empoisonner, parce que sa mère était médecin, lui faisait des bains froids qui étaient autant de tortures, et sa fille l'a dénoncée comme une sorte de capot d'Auschwitz. Hein. C'est ainsi qu'elle présentait sa mère. Donc c'était une mère invraisemblable, mais c'était pourtant elle avait affaire Je pense qu'elle souffrait beaucoup, hein, cette jeune fille. Elle avait effectivement affaire à cette mère terrible et destructrice. Et simplement par moments, elle recouvrait un peu un rapport à la personne qui était sa mère en disant « Cette pauvre femme, maintenant, elle est un petit peu âgée, donc elle n'est plus aussi pernicieuse qu'elle a pu être. » Donc là, elle récupérait quelque chose. Mais ça, c'était très, très, très rare. Alors, cela m'a conduite à l'idée qu'avoir un référent n'est pas essentiel au mode d'existence des personnages, puisque ça ne change rien à la manière dont nous sommes affectés par le personnage. C'est en fait, je reprends le texte de Pariente, il écrivait ce personnage, au fond, inconnu de la personne, hein, qui est transporté par elle, mais qu'elle ne sait pas transporter pour les autres. C'est en fait d'essence tout ce à quoi je puis prétendre. Ce qui signifie que l'essence de l'être humain individuel, si elle existe, en tout cas ne lui appartient pas, ne lui est pas intérieure. Elle est comme déportée en autrui et ancrée dans la collectivité. C'est pourquoi j'ai dit son statut à l'égard de la personne vivante devient celui de l'inconscient, cette part inconnue de nous qui vit dans le collectif. Alors la corrosion de l'opposition entre réalité et fiction est manifeste également dans un texte que j'ai apporté ici, où Cavell malmène des évidences concernant les personnages au théâtre. Là aussi, il s'agit d'un texte très ancien de Cavell, publié en 1969 dans « Must We Mean What We Say ?», qui est récemment traduit en français sous le titre « Dire et vouloir dire », donc paru en 2009-2010, en fait, aux éditions du Cerf. Alors, dans des pages extrêmement denses que je ne peux pas résumer, que je ne peux qu'évoquer, ces pages 492 et suivantes, Cavell dialogue avec un interlocuteur de bon sens qui lui fait observer que le théâtre, ça n'est pas pour le vrai, que les personnages ne sont pas réellement sur la scène, que seuls les acteurs y sont, et Cavell parvient de page en page, de ligne en ligne, à inquiéter cette opposition convenue entre réel et fictif, et nous fait en fait vaciller, je dirais, nous-mêmes, si on lit vraiment attentivement, nous fait vaciller, parce qu'il nous dit que nous sommes incapables de montrer du doigt l'actrice et Desdemone. C'est impossible de les séparer réellement. Jusqu'à nous révéler, et ça je pense que c'était son objectif, l'importance présente de la représentation pour notre rapport à autrui et au monde. C'est-à-dire qu'il est clair que pour Cavell, le théâtre, pas plus que le cinéma ou l'opéra, ne sont des divertissements. Ce sont vraiment des expériences qui mettent en jeu notre rapport à autrui et au monde. Alors les énoncés qui écartent la réalité de ce qui a lieu sont, dit Cavell, des sortes d'énoncés de réassurance tels qu'on pourrait les prononcer pour des enfants qui auraient peur et qui crieraient comme lorsqu'ils sont à une représentation de Guignol. Mais alors, dit Cavell, si nous avons besoin de nous rassurer nous-mêmes comme des enfants, alors que les enfants, s'ils ont peur, c'est qu'ils ne devraient pas être au théâtre, voyez qu'on peut se demander ce que nous faisons au théâtre. Ça veut dire que nous n'avons pas saisi en fait l'importance de ce qui se joue là. Et quand il pose la question, pourquoi, si vraiment Othello étrangle Desdemone, et c'est pas la peine de nous raconter des histoires en nous disant que l'acteur n'étrangle pas vraiment l'actrice. Si vraiment Othello étrangle Desdemone, pourquoi est-ce que nous allons le voir? Qu'est-ce qui fait que nous devons aller voir cela? Alors même que nous savons que nous sommes dans l'impuissance, que bien sûr nous pouvons monter sur scène et arrêter la représentation, mais c'est tout ce que nous pouvons faire. Or cette impuissance, montre Cavell, est au cœur du sentiment du tragique et elle interroge justement la question de cette confrontation délibérée que nous faisons aux situations qui me remplissent d'horreur et de pitié. Il n'y a rien que je puisse faire, et pas seulement au théâtre. Et c'est précisément cette condition d'impuissance à quoi la tragédie donne du sens. Il n'y a rien que je puisse faire, et pas seulement parce que je ne rencontre pas Othello, mais seulement l'acteur. Car si par impossible, c'est une expression leibnizienne, parce que Cavell ne l'emploie pas, si par impossible je rencontrais Othello, que lui dirais-je? Vais-je le raisonner? Mais Iago l'a mis hors d'état de raisonner. Vais-je lui dire la vérité ? Mais Desdemone n'a cessé de le clamer en vain. Hein, donc je n'y puis rien. Alors je laisse ce passage, dont je n'ai même pas restitué, je dirais, le quart de l'importance et du poids, parce que nous n'avons pas le temps. Mais je propose donc de considérer avec Cavell que dire, qualifier l'existence de Lear, du roi Lear, d'Othello et des autres de fictionnel, c'est incohérent quand c'est utilisé comme explication de leur existence ou comme négation de leur existence. C'est plutôt, et c'est cela que je vous demande de garder en tête, hein, c'est plutôt le nom d'un problème. Quelle est l'existence d'un personnage sur la scène ? Quelle sorte d'entité grammaticale ? Bon, c'est un Wittgensteinien, donc quelle sorte d'entité est-ce ? Pour répondre à cette question ontologique du mode d'existence des personnages, à la question de savoir de quelle sorte d'entité il s'agit, j'ai cherché une définition. Et cette définition, donc, j'ai cherché à la donner dans la première partie, ontologie des personnages, une définition qui puisse saisir dans le même mouvement les personnages évanouissants et les personnages matérialisés, et nous permettant de les mettre en série comme sur une échelle graduée de réalisation et de contextualisation. Là, cette première partie donne les fondations de l'édifice que je construis ensuite, et je ne sais plus si je l'indique dans le livre, en tout cas je l'avais très, très, très fort dans mon esprit, me dire qu'un non-philosophe pouvait au fond se passer de la première partie, mais j'espérais bien tout de même qu'on lise les soubassements sur lesquels s'étayaient les appartements suivants. C'est pour ça que j'avais bâti le livre un peu comme une pyramide, avec trois chapitres de la première partie, puis ensuite deux appartements parmi sans doute une infinité d'appartements, parce que je pensais à la pyramide des essais de Théodicée, où je vous le rappelle, Sextus mène différentes vies dans tous les appartements, donc dans tous les mondes possibles, et les différents Sextus sont différents par une différence qui parfois est une différence évanouissante, qui n'est pas saisissable au moment où on voit Sextus, mais qui va se développer avec le temps. Alors, dans ces appartements que nous pouvons voir avec les yeux de Théodore parce que Pallas Athénée l'a touché d'un rameau d'olivier, ce qui lui rend à la fois la vision de Pallas possible et la vision des appartements, c'est-à-dire du palais des destinées possibles. Je n'en ai pris que deux, parce que le livre, qui est déjà trop gros, aurait été vraiment beaucoup trop lourd. Et c'est vrai que quelques chrysales auraient sans doute décidé que c'était un meuble inutile qu'il fallait jeter au feu. Ou alors s'en servir, comme on dit qu'on se servait de l'être et le néant pendant la guerre, comme d'un poids pour peser les bébés. Donc j'en ai fait, et c'est là la définition que j'ai proposée, des virtualités agissantes, porteuses de normativité, avocates d'une forme de vie, des représentants ou des ambassadeurs d'un monde possible. Leur dynamique de réalisation témoigne en effet d'une certaine viabilité. Ils montrent que c'est possible à travers le corps vivant de l'acteur qui incarne le personnage. Et c'est pourquoi leur voix suggère sourdement, je dis sourdement parce que parfois ils ne le disent pas, mais en fait nous l'entendons du fait que nous subissons en fait l'attractivité ou que leur charme s'exerce sur nous. Donc nous entendons, c'est possible, la forme de vie qu'ils montrent, c'est possible, leurs choix d'existence sont possibles, la manière dont ils témoignent de leur existence sensible, elle est possible. Ils sont là. Preuve en acte de cette viabilité. Et c'est pourquoi le mal au cinéma, je le dis, n'est jamais vraiment haïssable. Il reste regardable, il reste tolérable, sauf si nous quittons la salle de cinéma. Ça veut dire que nous, en fait, sommes amenés à tolérer ces personnages mauvais. Ils restent attractifs car ils prennent forme humaine et ils ont, par exemple, le visage de Charles Denner, même s'ils sont Landru. Donc ils sont tout de même tolérables. Alors, si les personnages sont des virtualités à différents degrés d'actualisation, de prise de corps, ils font comprendre comment des personnes vivantes peuvent être hantées ou hypnotisées par des personnages qui sont pour eux comme des revenants ou des prophètes. Alors je pense à la figure de Dora chez Freud, en contemplation devant la Madone, mais aussi aux suggestions de Freud dans Psychologie collective et analyse du moi, où Freud dit bien que pour qu'il y ait des foules qui se constituent en masse, il faut un chef qui incarne en fait leur inclination inavouée, leur désir refoulé. Il faut ainsi quelque chose qui donne corps à ce qu'ils voudraient être et qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes, qui leur montre quelque chose de ce que Freud appelle l'idéal du moi. Alors, le genre cinématographique étudié par Stanley Cavell sous le nom de mélodrame de la femme inconnue montre également des femmes inconnues qui exemplifient particulièrement bien une subjectivité réprimée et non reconnue, une sensibilité, voire ce que Cavell appelle dans ses textes sur l'opéra, une souffrance sans concept. Alors, ça nous montre des trajectoires de femmes qui passent de l'aliénation dans et par une forme étrangère à une autonomie où elles peuvent déclarer leur existence et affirmer leur forme de vie. Et c'est pourquoi les personnages peuvent être certainement des outils d'aliénation, voire d'hypnotisation, mais aussi des outils d'invention de soi. Alors je donnerai un exemple ensuite à partir d'un film commenté par Cavell, le film Antise de George Cukor. Mais je complète, avant d'en venir à cet exemple, leur définition. La définition des personnages comme virtualité agissante permet de regrouper, je l'ai dit, des personnages dont la prise de forme est très inégale. Certains sont plus généraux, sont voisines, en fait, l'idée générale, voire le concept. Certains sont plus individualisés, plus près d'une personne individuelle, sans jamais, en fait, s'égaler ni à la personne individuelle. C'est-à-dire on n'a jamais de simples individus, sans jamais non plus s'égaler véritablement à l'idée générale. C'est ça l'intérêt de Don Giovanni. Je sais que Kierkegaard l'a divisé justement entre une individualité énergique et des traits singuliers qui sont ceux de Don Giovanni à son époque. Hein. Mais j'essaye précisément de ne pas faire cette division entre une sorte de tempérament et une idée. C'est justement l'intérêt de Don Giovanni, c'est que cette énergie prenne corps et forme dans un contexte socio-historique particulier. Donc, les personnages ont un statut indécis, ils sont parfois au seuil de l'idée générale. Par exemple, la femme inconnue, moi je dis les femmes inconnues, mais Cavell en fait dit en général la femme inconnue. Donc c'est le personnage de la femme inconnue qui lui l'intéresse particulièrement. Et alors que les femmes inconnues, celles qui apparaissent dans les différents mélodrames, sont plus individualisées tout en gardant leur typicité, tout en gardant ce qui fait qu'elles sont des versions, des déclinaisons de la femme inconnue. Et je les appelle aussi des virtualités parce que je postule justement qu'ils ont ce noyau énergétique qui les fait voyager de genre en genre, passer de la tragédie au cinéma, à l'opéra, ou peut-être à la publicité ou à la bande dessinée. Hein, ça se voit aussi. Pour noyau énergétique, qu'ils tiennent peut-être justement de cette nature de virtualité qui enveloppe une différence de potentiel, un déséquilibre, et qui la rapproche peut-être, ce sont des hypothèses que je fais à la fin du livre, de vibrations musicales qu'on retrouvera dans le préverbal, dans le sémiotique, dans le soubassement des premiers liens, comme en témoigne le travail actuel sur les interactions mère-nourrisson, où on travail fait par la linguiste et qui montre qu'il y a des schèmes mélodiques, peut-être universels, qu'on trouve justement dans ces vocalisations de nourrissons qui ne parlent pas encore, c'est-à-dire qui ne sont pas encore dans des langues particulières. Donc je compare les personnages à ces premières vocalisations qui ne sont pas encore prises dans des langues déterminées, mais qui vont être prises, justement qui s'engagent vers ces langue particulière. Ça en fait, et j'en terminerai peut-être par là sur cette définition, ça en fait des objets transitionnels, à la manière dont Winnicott définit un espace transitionnel qui est l'amorce de la culture, hein. Un espace transitionnel qui est ni moi ni non-moi, qui est plutôt un espace entre nous où circulent des objets qui sont d'abord des objets symboliques, hein, qui mettent en œuvre et qui constituent l'échange constitutif de la socialité et qui le font aussi bien qu'un acte de parole. Donc les personnages qui circulent entre nous accomplissent l'alliance et produisent du nous. Ce sont des opérateurs indissolublement psychiques et sociaux, des opérateurs d'une subjectivité non privée, mais plutôt partagée, qui définit un nous. Donc je les considère comme des entités transindividuelles, des virtualités partagées. Je les ai rencontrés dans divers jeux de langage, d'une culture donnée, c'est pourquoi ce n'est pas universalisable. L'opéra, c'est vraiment daté, le cinéma, bien entendu, la cure analytique, ça a eu un temps, ça ne durera peut-être pas, c'est vraiment une période particulière. Mais en même temps, on sait que la cure analytique, elle met en œuvre un dispositif de parole minimal où deux personnes, l'une écoutante, l'autre parlante, au fond, matérialisent quelque chose comme la parole destinée à l'autre, où sont inscrits les langues, les formes culturelles, tous les personnages où nous allons puiser. Et la parole qui circule, elle est censée dépasser l'alter ego narcissique ou le personnage qui est censé incarner le psychanalyste pour atteindre un sujet supposé savoir, un sujet de la culture et de l'histoire, le lieu où se seraient sédimentées les représentations et les figures. Donc nous avons là des jeux de langage très très datés, très historiques, très très représentatifs d'une certaine culture et sans doute dans d'autres cultures. On invente d'autres dispositifs thérapeutiques ou d'autres lieux de parole et on a aussi d'autres personnages. Alors, dans la première partie, j'ai aussi beaucoup insisté sur le personnage cinématographique que je reprends en deuxième partie, puisqu'en deuxième partie, la dynamique des personnages, j'examine plutôt les trajectoires de personnages dans l'approche cavellienne ou dans l'approche psychanalytique. Ce sont, disons, les deux approches que j'ai privilégiées, tout en sachant que l'une enveloppe l'autre. En effet, l'approche cavellienne, c'est une approche de quelqu'un qui ratifie un certain nombre de concepts psychanalytiques tout en parlant sa propre langue et dans sa propre métaphysique. C'est-à-dire qu'il ne va pas sur le terrain des psychanalystes, mais bien plutôt, il prend un certain nombre de concepts psychanalytiques qu'il fait fonctionner dans son espace philosophique. Et c'est à la suite de cette autorisation, on pourrait dire, que Cavell m'a donnée, parce que la lecture de Cavell m'a absolument libérée d'une certaine manière d'être inféodée au discours psychanalytique, m'a permis de le reprendre de manière tout à fait critique, c'est-à-dire sans, non polémique, mais autrement qu'il se donne dans l'espace, orthodoxe, on va dire, ou reconnu, de la psychanalyse reconnue, avec ses entités reconnues. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour ma part, j'anticipe un peu dans ma conclusion, c'est pour ma part, je pense que la psyché, si on peut utiliser ce genre de terme, est beaucoup plutôt habitée par différents personnages, le moi, par exemple, comme par une galerie de personnages, plutôt que par des instances telles que sur moi ou idéal du moi ou moi. Donc je crois qu'il serait plus aisé, plus maniable de se figurer l'espace psychique comme un espace qui ouvre sur le collectif et qui est vraiment peuplé de ces différents personnages. En effet, il faut préciser ce que c'est que le personnage cinématographique, dans la mesure où le cinéma crée, sans même le vouloir, de par son automatisme photographique, une entité tout à fait originale qu'on ne trouve pas dans les autres arts, qui est à la fois individuelle, puisque le personnage est inséparable des idiosyncrasies, des singularités, des tics, voire du grain de peau d'un individu donné, hein, et en même temps typique, car représentant de grandes positions humaines, existentielles, telles que les mythes nous les exposent. C'est pourquoi le cinéma, c'est sans doute pas seulement parce que les premiers réalisateurs manquaient d'inspiration, a vraiment repris les mythes, les légendes, le folklore, et s'est comme emparé de tout ce qui existait dans la culture en les réinventant. C'est pourquoi moi j'appelle ces personnages, du moins certains d'entre eux, des personnages métaphysiques. Et en particulier, ce personnage qui est la femme, justement, dont on sait bien qu'elle n'existe pas, pas plus que Dieu, mais cela n'empêche pas ces êtres terribles et incommunicables, dit Baudelaire, hein, d'exercer leurs effets. Bon, ensuite, Cavell ramifie la femme en différentes individualités, mais toutes ces individualités retiennent quelque chose de la femme, le personnage. Elle se dédouble notamment en femme du dedans, qui ne sort pas, qui n'est pas dans l'espace public, qui est épouse et mère, et femme du dehors, qui est l'aventurière, la courtisane et la maîtresse, figure inconciliable, ce qui engendre d'ailleurs le personnage de l'autre femme. Et ce caractère conflictuel emblématise une loi non écrite interdisant de concilier conjugalité et sexualité heureuse. L'homme, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Il se divise lui-même en homme de la communauté, qu'elle soit guerrière ou travailleuse, c'est l'homme en uniforme, au service de la collectivité. Et au contraire, le dandy, l'homme singulier, celui de la volonté autonome, qui brave, on pourrait dire, tous les interdits, mais qui préserve toujours son narcissisme, et dont un personnage emblématique est Clint Eastwood, hein, dont il est absolument impossible de séparer le personnage et l'individualité vivante. Alors il y a des ramifications innombrables selon les âges de la vie, les positions respectives dans la famille, l'aîné, l'oncle, le gendre, ou dans la société, les chefs, les esclaves, les domestiques, les serviteurs. Les personnages donnent une forme sensible, un visage et un corps aux grandes questions et réponses par rapport aux choix nécessaires devant la loi, devant la guerre, le conflit, le défi, l'amour, l'enfance, le vieillissement, la mort. Et le cinéma ne cesse en fait d'interroger, je dirais, le contrat social. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet de vivre ensemble? Qu'est-ce qui inaugure une loi? Alors, ces cataclysmes où il faut reconstruire, ou ces menaces qui font que on va vivre d'une certaine manière, on va se donner une loi. Donc, je dirais que le cinéma réinvente le mythe freudien de la horde primitive. Il donne une forme partageable. Les artistes, ceux qui ont su capter ces dynamiques d'expression qui sont dans les personnages, qui organisent des pulsions et des affects, et leur donner une forme partageable, produisent justement, comme Mozart, le personnage de Don Giovanni, mais on sait bien que selon les époques, c'est le héros de la révolte contre une loi paternelle, ou bien c'est un libre penseur, ou bien c'est un grand seigneur méchant homme, défiant les aristocrates, humiliant les paysans, séduisant ou violant les femmes de tout milieu. Ce personnage, avec ses variations et ses déclinaisons, rend lisible une forme de vie, tout en exerçant un charme qui empêche la pensée de se réveiller. Et sans doute la musique renforce encore ce charme. Alors je dis que le personnage fait scintiller le type. C'est, en fait, le personnage incarne le type. Il est d'abord du typique incarné dans une individualité. Il fortifie le type tout en l'empêchant, grâce à ses singularités, l'empêchant de glisser justement vers le général. Parce qu'il est inséparable de traits ou de circonstances particulières. Et ce sont ces traits particulier du personnage, en particulier du personnage incarné à l'opéra ou au cinéma. Et c'est vrai qu'avoir un Don Giovanni au cinéma, on pourrait dire, c'est une sorte de comble de l'incarnation. On a à la fois l'un et l'autre. On a à la fois l'opéra, la voix et le cinéma qui font qu'on a une forme qui nous paraît éternelle. Bien sûr, nous sommes avides d'éternité. Elle ne l'est sûrement pas. Hein. Mais notre avidité d'éternité, notre avidité pour dépasser le caractère fugitif de notre existence fait que les personnages, au moins, nous semblent habiter l'éternité. En variant plus que dans d'autres arts, ou en tout cas plus rapidement que dans d'autres arts, les personnages, en les déclinant très rapidement, hein, parce qu'il y a vraiment au cinéma des reprises très rapides, des mêmes intrigues ou des mêmes personnages, on peut dire que le cinéma impose les questions de savoir quel tempérament nous préférons, hein, est-ce que nous préférons l'incarnation de Garbeau ou de Keira Knightley pour Anna Karénine, c'est-à-dire au fond quel est le monde qui s'impose à nous à travers ces personnages, à travers ce tempérament singulier. Il nous pose la question quel monde voulons-nous, du fait même, je dirais, de leur variation. Et c'est ainsi que Cavell reprend, sans peut-être le savoir, des expressions très voisines de Ricoeur, lorsque Ricoeur disait que les récits étaient comme le laboratoire du jugement moral. Et il est vrai que Cavell a des formules très, très analogues et qu'il ne cite jamais Ricoeur, que peut-être d'ailleurs il n'a jamais lu. Hein. Mais il dit que les personnages sont nos outils d'évaluation et de délibération morale dans la mesure où ils montrent dans un corps déterminé des raisons d'adopter une forme de vie et peut-être même d'aimer une forme de vie tout en montrant les conséquences désastreuses parfois de leur choix d'existence. Ils donnent toujours à voir le chemin particulier d'incarnation, compris chez eux des dispositions universelles, rebelles, séductrices, vengeresses, sacrificielles, protectrices, amoureuses, destructives. Alors je vais en venir, il est peut-être temps de donner l'exemple que j'avais promis, c'est-à-dire de ne pas parler trop généralement. Et pour ces personnages qui emblématisent un monde, je vais emprunter l'approche très originale de Cavell en tant qu'elle enveloppe certains outils psychanalytiques hein, que j'ai détaillés en fait dans un chapitre séparé pour la commodité, hein, en une approche critique de la psychanalyse freudo-lacanienne dédiée à la formation d'une subjectivité désirante et incarnée. Et cette approche critique, je l'ai faite surtout autour des notions d'identification et de castration. Mais je le laisse bien sûr de côté pour ce soir. Et je vais passer avec Cavell par des personnages... il faudrait passer par des personnages shakespeariens ou hollywoodiens, femmes théâtrales, fils mélancoliques ou pères insatisfaisants, comme dans le conte d'hiver. Alors, la dimension mythique de ces personnages y est particulièrement présente et efficace. Et on la voit dans leur caractère ancestral, c'est-à-dire que les personnages font en quelque sorte revenir d'autres personnages passés. Ils sont en écho à d'autres qui les ont précédés. Et c'est ce que capte ou cherche à capturer la notion freudienne d'identification, peut-être justement de manière un petit peu insatisfaisante. Et cette dimension mythique, elle est particulièrement nette dans la condensation qu'ils offrent de relations constitutives d'une forme de vie, enveloppant de multiples niveaux, et donc équivalent, selon moi, à quelque chose comme un fait social total, comme le dit Marcel Mauss. Alors cela fait du théâtre shakespearien, de l'opéra moderne ou du cinéma hollywoodien, justement des sortes de faits totaux, de représentants d'une société comme ensemble de systèmes symboliques. Cette dimension mythique qui en fait des stars ou des météores suggère toujours une dimension d'altérité, vise un ailleurs, et ils ont justement ce regard traversant qu'a Salomé, hein, qui traverse pratiquement même le spectateur. et qui va vers l'au-delà. Et Cavell nous immobilise aussi une photo de Garbeau qui, paraît-il, est en train de regarder son amant, mais justement on ne voit pas l'amant dans la photo. Et donc nous, spectateurs, nous sommes tout à fait sensibles à l'idée qu'elle regarde par-delà son amant, qui bien sûr, comme dit Cavell, ne peut pas être la cause de ce regard-là. Donc ces personnages incarnent particulièrement bien notre condition migrante, hein, le fait que nous ne sommes pas ou nous croyons ne pas être de ce monde. Nous ne pouvons pas habiter ce monde. Alors les femmes inconnues, précisément, déclinent de mille manières ce message qui est « nous ne pouvons pas accepter ce monde tel qu'il est ». Nous ne pouvons pas, en particulier, ça se marque par le refus du mariage, qui est le paradigme de la socialité. Nous ne pouvons pas accepter ce mariage, cette convention, cette institution. Et donc, les femmes inconnues sont les héritières de la Nora de Maison de Poupée, à qui son mari disait « mais enfin, tu es épouse et mère, tu ne peux pas laisser ta maison, ton époux, tes enfants », et qui répondait « non, je ne crois pas, je ne crois pas, je suis une femme ». Alors, c'est le cas de beaucoup de ces femmes inconnues, des mélodrames de la femme inconnue. Je laisse de côté le plus tragique de ces films, qui est mais que vous connaissez sans doute, la femme inconnue de Max Ophüls, qui lui-même reprend le thème de l'inconnu de Zweig, de la lettre d'une inconnue de Zweig. C'est le plus tragique, puisqu'on peut dire que les femmes inconnues, en général, tentent de se faire reconnaître, de faire reconnaître leur existence, d'avoir une voix dans leur histoire, mais en vain. En vain, mais en revanche, la plupart d'entre elles, si ce n'est pas un trait commun, mais la plupart d'entre elles conquièrent une autonomie dans ce trajet de revendication d'une existence qui n'est pas reconnue. Par exemple, Stella Dallas, enfin du moins la lecture qu'en fait Cavell, qui est très convaincante, bien sûr, c'est que Stella Dallas, qui avait été vue par la problématique féministe américaine comme vraiment le mélodrame de la maternité aliénante, de la femme qui se sacrifie pour son enfant, Cavell retourne complètement la lecture en montrant dans cette femme une femme qui, en fait, délibérément va vers la séparation d'avec sa fille et qui permet à sa fille de prendre son autonomie en se séparant d'elle. Et ce qui fait qu'elle aussi peut prendre son chemin. Et c'est comme ça qu'il interprète la dernière image de Stella Dallas. Mais ce que je vais faire, c'est vous raconter un film que peut-être vous n'avez pas lu, un film qui est un petit peu plus léger que ces films dramatiques et que Cavell examine dans Cities of Words. Je ne me souvenais pas de la traduction, c'est « Philosophie des salles obscures ». Ça a été traduit sous ce titre très, très prometteur. Et dans ce livre, il examine Antise, d'Occucor. C'est un film qui s'ouvre sur une page de journal annonçant l'assassinat d'une cantatrice célèbre. Et puis ensuite, on voit sa nièce, Paula, qui est incarnée par Ingrid Bergman, dont c'était le premier rôle un petit peu grave. Donc, elle est très jeune et elle est supposée avoir hérité de la voix de sa tante, ce qu'elle ne reconnaît pas. Elle dit « je n'ai pas de voix, n'est-ce pas ? Je ne chante pas comme elle. » Mais comme elle est supposée avoir hérité de la voix de sa tante, en fait, on la voit partir de la maison de sa tante et aller, peut-être dans un pays étranger, j'ai oublié, étudier le chant. Et elle est notamment accompagnée par un pianiste qui était le pianiste de sa tante. Et elle va recevoir des leçons de chant du maître de chant de sa tante. Donc c'est vraiment un film qui a affaire avec l'identification, y compris l'identification déniée. Et pour ma part, moi je pense que la manière dont elle dénie avoir la voix de sa tante, c'est peut-être une manière maladroite de refuser précisément cette identification aliénante à un personnage très surmoïque car idéalisé. Alors tout le film déploie, et je n'entre pas dans le détail, un piège monté par le mari, qui est l'ancien pianiste de sa tante, et avec qui elle s'est mariée entre-temps, donc je vous ai passé pas mal d'épisodes. Il l'a reconduit chez sa tante dans la maison qu'elle ne voulait pas, en fait, habiter. et qui est une maison qui semble hantée, qui est très angoissante. Il l'enferme pratiquement avec une servante muette et une vieille complice, une gouvernante cruelle qui fait penser à la gouvernante de Rebecca, d'Hitchcock. Et d'ailleurs, il y a un film d'Hitchcock ensuite qui ressemble beaucoup à ce film, qui est Les Amants du Capricorne, toujours avec Ingrid Bergman. Donc c'est là aussi, dans Les Amants du Capricorne, c'est le mari qui soumet sa femme à un enfermement et à diverses machineries. Elle est enfermée dans sa solitude, sans voix, sans personne à qui dire son expérience. Elle entend des phénomènes étranges et le mari essaye de lui faire croire qu'elle est folle, ce qui était d'ailleurs le cas de sa propre mère. Il ôte tout crédit à sa parole lorsqu'elle ose parler. Donc elle n'a pas de voix. C'est ça l'idée, elle n'a pas de voix, elle ne peut pas parler, elle n'a pas à qui parler, et elle se croit folle. Elle est, pour Cavell, elle est dans le moment du doute cartésien, le mari faisant office de malin génie. Elle se demande en effet, est-ce que je ne rêve pas? Est-ce que je ne suis pas folle? À quoi ou à qui peut-on se fier? Et ce moment de doute, d'enfermement, de retrait, d'isolement, prélude à ce que Cavell appelle son cogito, son affirmation d'existence, « je suis, j'existe », mais qu'elle ne peut délivrer que, bon, dans des circonstances un peu rocambolesques, il y a un jeune reporter qui, lui, est sur les pas de l'assassin de la tante et qui, en fait, soupçonne le mari, il a raison d'ailleurs, d'être l'assassin de la tante, et qui découvre, en fait, la machinerie. Et il lui fait part, peut-être, d'un peu de ses soupçons. Elle lui confie qu'elle a vu un certain nombre de choses. Il lui explique comment le mari lui fait voir des phénomènes étranges. Donc, elle peut partager avec lui ses émotions et son expérience, et elle recouvre la confiance en soi. Mais cette déclaration d'existence cogito, elle la manifeste dans une scène un peu rocambolesque. Le mari a été ficelé sur une chaise par le reporter, et puis l'a laissé seul. Et le mari, bien sûr, comme il a beaucoup d'emprise sur elle, il lui demande de lui enlever les ficelles, les cordes qui le relient avec un couteau. Et alors là, elle lui fait une déclaration, elle, tout à fait amusante, puisque donc on n'est pas dans le drame, elle pourrait au fond le tuer avec ce couteau. Elle lui dit d'ailleurs qu'elle pourrait le faire parce qu'au fond, elle est folle. Enfin, on lui a dit qu'elle était folle, elle est folle. Donc elle assume cette identité de folle et elle retourne cette folie comme une ressource, le menace de ce couteau. Et en fait, lui déclare « je suis, j'existe », pas exactement dans cet énoncé, bien entendu, mais à une déclaration qui équivaut, selon Cavell, au grand air de la folie que chantait précisément sa tante, et qui était l'air de sa tante. Donc c'est l'air de la folie, mais au fond transposé avec les pouvoirs du cinéma, dit Cavell, de donner une fin heureuse, ce que l'opéra ne réussit pas à faire. Donc elle le menace d'un couteau, mais en fait elle l'abandonne en piètre posture sur sa chaise. Alors commentons, Paula ne conquiert pas une voix chantante, elle ne réincarne pas sa tante, mais elle conquiert une capacité d'affirmation et d'expression. Elle suit un itinéraire perfectionniste d'amélioration de soi et du monde, en renonçant au bénéfice de la conformité, aux idéaux sociaux de la famille ou de la place assujettie des femmes. On remarquera que le psychanalyste joue un petit peu le rôle d'un alter ego bienveillant, comme le ferait un psychanalyste, qui n'est jamais que le support d'une vérité qui vient à se dire dans l'échange langagier. Alors, l'intrigue de Gaslight met aussi en évidence une condition commune que j'appelle condition hallucinatoire et qui se remarque particulièrement au cinéma, puisque au cinéma, nous sommes soumis au dispositif cinématographique. Il n'est pas possible de se soustraire à une sorte d'adhésion ou de croyance aux images qui nous sont délivrées. Nous sommes là dans la matérialisation du fantasme comme filtre d'accès à la réalité. L'expérience privée, solitaire, elle est proprement affolante et nous ne pouvons en sortir, c'est la leçon de Cavell que je partage avec lui, qu'en nous exposant à l'expressivité, ce qui nous expose aussi à cette sorte de réputation d'hystérie qu'ont les femmes. Mais nous n'avons que cela, le pouvoir de donner des mots à l'expérience pour entrer dans un espace public de conversation qui est le seul producteur d'objectivité. Donc, où c'est l'accès à la réalité par le fantasme ou une conquête de l'objectivité par l'espace public de conversation. Et dans son commentaire, Cavell réhabilite cette subjectivité qui n'est à proprement parler ni féminine ni masculine, mais qui est la part inconnue de chacun, frappée d'un interdit d'expression, seule source de la pensée, à condition de consentir à perdre le bénéfice d'une croyance en une richesse de l'intériorité ineffable, ou à perdre le bénéfice de la position de supériorité masculine. Dans le personnage de la femme inconnue et la conquête de sa voix, on est déjà dans l'espace de la psychanalyse, et donc je n'ai pas le temps d'en dire beaucoup plus, sinon que j'ai insisté sur le traitement psychanalytique de la voix dans son rapport à l'identification, de la voix comme ce qui du corps supporte la parole, tout en symbolisant les affections de l'âme. Mais l'objet sonore qu'est la voix est tellement imbriqué avec le discours qu'on ne l'entend pas, mais qu'il produit des effets. Et donc j'en cite que deux avant de conclure. Justement, la dimension préverbale ou sémiotique que j'indiquais tout à l'heure, qui amène à la notion d'enveloppe proto-narrative, pour parler des interactions sémiotiques entre mère et nourrisson. Et Maya Gracier, psychologue et musicologue, fait l'hypothèse justement d'une sémiosis préverbale où se fonde l'expérience affective partagée qui assure la communication entre êtres humains. Alors, je reprends ces hypothèses tout en indiquant qu'il y a d'autres voix que les voix chaleureuses et maternelles. Il y a aussi les voix, d'ailleurs, il y a des mères terribles et il y a des voix précoces, menaçantes, surmoïques, qui produisent aussi des effets inoubliables. Mais ça m'amène au deuxième effet de la voix. Je fais en effet de la voix avec Lacan et ses successeurs comme Poisat ou Jean-Michel Vivès un objet perdu, cause du désir, qui oriente vers un paradis symbiotique, et d'autant plus perdu qu'il n'a sans doute jamais eu lieu. Je reprends cette thèse en ce qu'elle me permet d'éclairer l'efficacité redoutable justement de ces leaders, chefs ou fureurs qui, à l'insu de ceux qui les écoutent et peut-être même à leur insu, réveillent des complexes émotifs et affectifs qui témoignent d'une relation à un autre inoubliable, archaïque. Mais c'est aussi la voix obscène du surmoi, la voix du père commandeur, inséparable pour nous de la voix de Don Giovanni ou de la voix vengeresse de la femme violée et de la femme trompée, Donna Inna et Donna Elvira. Dans les objets X dont Freud dit que les chefs sont parés et qui leur permet d'exercer leur puissance, il y a certainement la voix. Alors je conclurai, puisque vraiment pas le temps d'en dire beaucoup plus, en résumant un peu, les personnages jouent pour nous un rôle d'enveloppe narrative ou même parfois proto-narrative par leur voix. Et ils sont peut-être la prise de forme historique et sociale de virtualité vibrante pré-personnelle qui, à travers la voix, organise les émotions et les vécus, pousse à la prise de corps et, grâce à leur potentiel de transformation, hante le présent. Ils sont porteurs d'humeur d'espoir vers l'avenir, mais aussi de nostalgie d'un monde perdu. Je pense que les chefs jouent beaucoup sur ces affects de nostalgie d'un monde perdu. Alors, les personnages, au fond, personnifient ces virtualités. Donc j'ai dit qu'ils étaient porteurs de la question « Quel monde voulons-nous ? » On peut en faire usage pour imaginer une autre vie en les faisant varier, puisqu'ils sont en fait une famille de personnages ou une série de personnages. Ils nous permettent d'injecter de la possibilité dans un présent immobilisé sans devenir et donc d'introduire dans ce qui nous paraît fatal un élément de libre-arbitre. Bon, ils traversent les âges, un peu comme des volcans, parfois comme des volcans éteints, parfois en éruption, et ils reprennent vie, ils reprennent leur devenir jusqu'à de prochaines renaissances ou remises en scène. Je terminerai avec deux phrases. Ils incarnent une vie de l'esprit inconnue de lui ou de nous, que nous avons à reconnaître plutôt qu'à connaître. Et je dirais aussi qu'ils nous précèdent, ils nous survivront, Et nous les aimons parce qu'un monde avec Mozart et Shakespeare est beaucoup plus vivable qu'un autre.
Merci.